Dans la précédente leçon, nous avons analysé comment l'ONU et ses différentes agences a développé, du moins à une période particulièrement entre 75 et 95, un certain nombre d'outils conceptuels, de programmes et d'instruments juridiques en faveur de l'égalité entre les sexes. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il en est pour l'Union européenne. On se demandera notamment si l'Union européenne s'appuie sur les directives de l'ONU, on s'interrogera sur son fonctionnement et on essaiera ensuite de faire un bilan de ces approches. Vous savez que le projet européen est venu après cette guerre terrible qui a dévasté l'Europe et le monde aussi. Et avec un projet qui est assez utopique, qui est de lutter finalement contre la guerre par le commerce. Avec l'idée que si les gens se connaissent, se côtoient, s'échangent des biens, eh bien, ils n'auront plus jamais envie de faire la guerre. Et ça, c'est un projet donc d'ailleurs d'assez longue haleine. Donc ça a commencé très petitement avec la communauté européenne du charbon, puis en 1957, la communauté économique européenne. À l'époque, il n'y avait que la France, l'Italie, l'Allemagne fédérale, la Belgique, les Pays-Bas et les Luxembourg. Et c'était une zone qui finalement n'avait pas de gouvernance propre, qui restait purement administrative. En 1970, a été créé le Parlement européen, qui est devenue ensuite l'Union européenne en 1993 avec 27 pays et puis donc une prise d'importance puisqu'il s'agit plus de seulement de liens commerciaux mais aussi de liens politiques. Et par la suite, il y a eu aussi la zone euro sur une base plus petite. Donc là, nous allons surtout évoquer l'Union européenne et nous allons nous demander s'il s'agit vraiment d'une instance en faveur de l'égalité, comme on la présente souvent. Alors déjà, quand vous allez sur le site de l'Union européenne, vous verrez, il y a cette diapositive que j'ai repris hein, sur les fondateurs, hein, et vous voyez là 5 hommes. Donc 5 hommes seulement. Pourtant, si vous lisez le livre d'histoire hein, que je vous conseille, qui s'appelle pour une histoire mixte, vous verrez que dans l'Union européenne, il y a eu aussi des grands-mères, et notamment Louise Weiss. C'est d'ailleurs elle qui a prononcé le discours inaugural de l'Union du Parlement européen en 1979. Hein. Ce Parlement qui, pour la première fois, était élu au suffrage universel direct, hein, pour qu'il soit mieux accepté par les populations européennes. Et Louise Weiss, ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est une suffragette qui a lutté pour le droit de vote des femmes, et c'est aussi quelqu'un qui a eu toujours des convictions européennes. Elle a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Mémoire d'une Européenne ». Et donc, à l'époque, elle avait 84 ans. Et ce Parlement européen a élu une présidente, et non pas un président, donc Simone Veil. Donc il y a eu aussi des femmes dans la construction européenne et il ne faut pas les oublier. Cela dit, pendant longtemps, l'approche était donc purement économique et sociale et donc reposant aussi sur le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que finalement tout ce qui peut être mieux traité au niveau local doit l'être au niveau local. Et donc, dans le traité de Rome, l'égalité entre les sexes ne fait pas partie de ses fonctions, puisqu'il s'agit uniquement d'un traité qui vise l'économie. Seulement, qui dit économie dit travailleur, et donc travailleuse. Et là, la France, qui avait elle-même une législation en faveur de l'égalité entre les sexes, au niveau du moins du salaire, craignait que les autres pays où cette législation n'existait pas soient trop concurrentes avec elle, qu'elle pourrait finalement, notamment dans le textile, bénéficier de tarifs beaucoup plus concurrentiels puisque les travailleuses étaient presque pas payées. Et du coup, elle a beaucoup insisté pour que l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et féminins soit incluse dans le traité de Rome. C'est le seul aspect qui traite des femmes. Et là, vous voyez déjà une première différence par rapport à ce qu'on a vu lorsqu'on a étudié le monde, c'est que finalement, dans l'ONU, lui, à ce moment-là, se préoccupait de la question de la nationalité, de l'égalité de mariage, dans le mariage, de la question du consentement, donc des choses qui n'étaient pas forcément acquises en France, hein, où il y avait là, cette notion encore de chef de famille jusqu'en 1970. Mais l'ONU ne s'occupait pas du tout de la rémunération des salaires, alors que ça a été la première préoccupation des Européens, et notamment du traité de Rome. Donc on reste dans cette position pendant finalement assez longtemps, jusqu'en 1970. Et là, en 1970, il y a un premier changement, puisque toujours par rapport à cette question finalement de l'égalité dans l'emploi, eh bien, il va y avoir trois directives. D'une part, sur les rémunérations. Ça ne vous étonne pas, mais il n'y a pas eu en réalité d'égalité de salaire entre les hommes et les femmes suite au traité de Rome, pas plus qu'il y en a eu par rapport aux législations françaises. Là, cependant, on ajoute deux autres thèmes. Le premier, c'est l'accès à l'emploi et à la formation professionnelle. C'est une époque où on est encore dans une situation de plein emploi, où il y a eu une très forte immigration et où on pense finalement qu'il faudrait peut-être mieux qu'il y ait plus de travailleuses et c'est souvent pensé comme ça dans ces termes, en termes un peu de concurrence et de remplacement. Et puis il y a la question du traitement en matière de sécurité sociale, puisque c'est une entrave à la circulation des travailleurs, puisque les conditions de protection de l'épouse, des enfants ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Donc on insiste sur cette question, il faut une égalité dans la sécurité sociale, il faut régler toutes ces questions-là. Donc ça, c'est trois directives qui sont importantes, mais qui restent assez limitées. Alors, tout va changer en 1979. 79, vous vous rappelez, hein, en 1975, il y a eu la première grande conférence mondiale sur les femmes à Mexico. Et puis, fin des années 60, 1970, il y a eu aussi l'éclosion de très nombreux mouvements féministes un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis, en France, en Angleterre, etc. Évidemment aussi au Mexique et dans d'autres pays. Donc, en 1979, il va y avoir la création d'une commission des droits des femmes qui va être ouverte aux associations, dont le Lobby européen des femmes, qui est une association qui fédère de nombreuses autres associations de tous les pays européens. Et donc, c'est en fait une plateforme qui va regrouper jusqu'à 4000 associations. Donc, vous voyez que là, il y a cette effervescence aussi des mouvements féministes ou féminins aussi sur l'ensemble de l'Europe. Et du coup, entre 1980 et 2000, on a pu dire que l'Europe était une chance pour les femmes. Car là, la question de la participation équitable des femmes et des hommes dans les processus de décision va être posée et de façon très forte en considérant qu'il s'agit d'un approfondissement de la démocratie, que la démocratie était jusqu'à présent androcentrée, c'est-à-dire purement masculine, et qu'il est donc temps d'inclure les femmes dans les processus de décision et aussi dans les lois. Et donc, 10 ans plus tard, en 1989, le Conseil de l'Europe va prendre parti pour la démocratie paritaire, c'est-à-dire pour l'idée qu'il doit y avoir autant d'hommes que de femmes dans les instances de décision. D'ailleurs, si vous regardez ce graphique sur l'évolution des députés européens selon leur sexe, hommes et femmes, vous voyez qu'en 1979, il n'y avait que 7,6% des femmes, et puis ça augmente régulièrement jusqu'à 2008 où il y avait 31%. Donc la préoccupation finalement pour la démocratie paritaire, elle a été antérieure à l'augmentation qui stagne d'ailleurs depuis 1999 de la présence des femmes dans le Parlement européen. Alors on peut dire que 31%, ben, ce n'est pas encore même si c'est deux fois plus qu'en 1979, ce n'est pas encore quand même tout à fait paritaire. Mais c'est quand même beaucoup plus que ce qui se passe ailleurs, puisque dans l'ensemble des parlements nationaux, il n'y a que 20% de députés. On peut penser que parfois les partis considèrent que l'Union européenne, c'est bien loin, que sa carrière, on l'a fait dans son pays, et que du coup, on laisse plus facilement ses postes aux femmes. Mais c'est peut-être une optique un peu négative. Alors tout ça se traduit par des changements, hein, aussi des pratiques. Vous voyez que la question évidemment de la conciliation pour les femmes est posée beaucoup plus clairement, puisqu'elle est vécue plus directement par les députés qui sont mères que par les députés qui sont pères, qui sont habitués à se reposer sur le travail de leurs épouses. Alors néanmoins, il y a pendant cette période un très fort affichage hein, de la parité. Parité qui ne se retrouve certes pas au niveau des présidents, hein, lors des derniers changements. Ont été élus un président du Parlement, Martin Schulz, un président du Conseil européen, Donald Tusk, et un président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dont trois hommes. Néanmoins, au niveau de la Commission européenne, il y a un certain nombre de femmes, dont une vice-présidente féminine, et il y a eu tout un débat à ce moment-là sur savoir est-ce qu'il fallait une commission totalement paritaire ou pas. Ce n'est pas le cas, mais il y a quand même une représentation assez forte des femmes. Alors, l'Union européenne, donc pendant cette période, va développer une double approche. D'une part, le gender mainstreaming, dont on a déjà parlé, hein, puisque ça a été la grande politique qui a été promue par les conférences mondiales pour les femmes dès 1985, mais de façon beaucoup plus ferme à partir de 1995, donc à Pékin. Et puis, en même temps, le maintien d'actions spécifiques. Et ces actions vont être aussi très importantes. Donc, le gender mainstreaming a été accepté comme politique européenne en 1997, donc deux ans après la conférence mondiale pour les femmes. Néanmoins, on peut penser que ce n'est pas uniquement à cause de cette proclamation, de ce programme d'action, c'est aussi lié à des facteurs internes à l'Union européenne. En 1995, en effet, la Suède et la Finlande ont adhéré à l'Union européenne. Or, ces pays, comme vous le savez, sont des pays qui certainement sont ceux parmi lesquels à la fois l'égalité des sexes est la plus affichée, la plus affirmée par les politiques, mais aussi celle où elle est le plus réalisée, même si on est encore loin d'une égalité totale. Néanmoins, ce sont des pays qui sont très fermement ancrés dans une tradition égalitariste. D'autre part, en France et au Royaume-Uni, les gouvernements sont socialistes. Et les partis de gauche ont souvent beaucoup plus porté ce choix en faveur de l'égalité des sexes que les partis de droite, comme on le verra plus en détail par rapport à la France. Du coup, le traité d'Amsterdam de 1999 déclare que l'intégration de l'égalité dans toutes les politiques publiques, à tous les niveaux et à toutes les étapes, par tous les acteurs, donc doit être réalisée. Donc, ça, c'est une véritable politique de gender mainstreaming, d'intégration de l'égalité entre les sexes ou de transversalisation de l'égalité des sexes. Enfin, pour faire plus court, on prend le terme anglais, gender mainstreaming. Et donc, une volonté de prendre les choses à la racine et que la politique d'égalité entre les sexes soit intégrée partout. Ce qui était mis en œuvre à ce moment-là, c'est vraiment une forme d'institutionnalisation du gender mainstreaming. C'est-à-dire que toutes les demandes de subventions, tout appel au fonds structurel européen, doit comporter une ligne qui dit quel va être l'impact de cette action en faveur de l'égalité des sexes. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui met dans la tête de beaucoup de chercheurs, d'associations qui n'y pensaient pas, cette question. Évidemment, la question comment ensuite cela va être réalisé, c'est quelque chose d'assez compliqué. Une étudiante de Duke avait analysé cette intégration dans un programme interrégional, avait vu qu'assez souvent cette ligne n'était pas remplie sans que cela porte à conséquence, ou qu'elle était remplie de façon tout à fait minimale, en disant, ben voilà, on a des femmes dans notre équipe, voilà. C'est à peu près tout. Mais au moins la question est posée. D'autre part, les gouvernements eux-mêmes doivent rendre compte de leurs progrès. Ils ont une feuille de route, l'Europe a une feuille de route, et les gouvernements doivent dire ce qu'ils ont fait en faveur de l'égalité des salaires, de l'égalité de formation, etc. Et ces réalisations sont surveillées par une comité d'experts. Donc là, on retrouve un peu le même mode de fonctionnement qui a été mis en œuvre pour la CEDEF. Vous vous rappelez la Convention pour l'élimination des discriminations envers les femmes, où les différents gouvernements doivent remettre un rapport, mais qui dans ce cas-là est de tous les 4 ans, et celui-ci est jugé par un comité d'experts. Alors là, comme j'ai dit, l'Europe, par ailleurs, essaie d'équilibrer les actions à la fois spécifiques pour combattre les discriminations, donc on va peut-être donner plus d'argent à des femmes pour qu'elles se forment, pour trouver une solution de garde d'enfants, etc., et en même temps transversale, l'action transversale de gender mainstreaming. Et de fait, depuis 2004, la Commission européenne a présenté chaque année au Conseil européen, donc qui réunit les 27 chefs d'État et de gouvernement, un rapport annuel sur la situation des hommes et des femmes en Europe, en précisant quels sont les progrès et quelles sont les orientations à développer pour faire avancer l'égalité. Donc là, de façon formelle, la Commission européenne a rempli les engagements qu'elle avait pris lors du traité d'Amsterdam. Néanmoins, on assiste à des choses assez surprenantes. Par exemple, en 2005, la 49e session de la Commission européenne sur la condition des femmes a adopté de nouveau le gender mainstreaming, ce qui donc paraît tout à fait favorable à l'égalité entre les sexes, mais paradoxalement a refusé une directive concernant l'égalité des femmes dans la vie économique et notamment professionnelle. Donc cela semble dire que d'accord au gender mainstreaming, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, ça ne mange pas trop de pain, on va affirmer qu'il faut de l'égalité, mais lorsqu'il s'agit d'une directive concrète qui peut avoir un impact, alors là, on oublie complètement cette égalité. D'ailleurs, les crédits de l'unité d'égalité des chances ont diminué de moitié à cette période. Donc beaucoup moins d'argent pour réaliser des actions. Et ça ne s'est pas reporté, en fait, sur le fameux gender mainstreaming. Donc on peut se demander, en fait, s'il n'y a pas eu une rupture. Et ça s'est remarqué notamment lorsqu'on a posé la question d'intégrer l'égalité des sexes dans la Charte des droits fondamentaux de l'Europe. Ce n'était pas indiqué au début. Il était bien indiqué que l'Europe avait une tradition européenne, une tradition religieuse, chrétienne, mais il n'était pas indiqué que l'égalité faisait partie de ses valeurs fondamentales. Et ce n'était pas indiqué non plus dans le projet de traité constitutionnel. Du coup, il y a une mobilisation très forte du lobby européen pour les femmes, d'autres de très nombreuses associations nationales, et finalement il a été obtenu qu'il y ait un article 23 qui intègre l'égalité entre les sexes. C'était quand même assez curieux parce que les Européens n'arrêtent pas de dire que eux, par rapport aux autres pays, aux autres nations, sont en faveur de l'égalité des sexes, que c'est une preuve morale de leur civilisation, et en même temps, elle n'aurait pas apparu dans la Constitution. Alors pourquoi ce retard? Pourquoi tout d'un coup ces blocages? Eh bien, c'est que la situation en 2004 devient très différente au niveau des rapports de force. À ce moment-là, il y a des nations qui sont très peu en faveur de l'égalité des sexes, à savoir la Pologne et Malte, qui vont intégrer l'Union européenne. Et du coup, bah, ça fait deux voix de moins pour l'égalité des sexes. D'autre part, on est dans une période aussi où on parle beaucoup du coût excessif des programmes, et donc on veut les réduire, et ça tombe évidemment beaucoup sur ces programmes. L'autre point important, c'est qu'il y a un basculement à droite de la majorité des pays européens. Et du coup, là aussi, ben, comme j'ai dit, la droite est quand même moins favorable à l'égalité entre les sexes, moins favorable, moins nominalement. Et puis d'autre part, c'est un autre très grand, une très grande cause, hein, c'est qu'à ce moment-là, il y a des revendications communautaires qui arrivent. Il y a des, notamment en Europe, il y a les émeutes dans les banlieues françaises, mais il y a aussi des problèmes dans de nombreux autres pays. Et donc du coup, on a tendance à dire que finalement, la question de l'intégration des immigrés, donc de la question de la diversité, est aujourd'hui plus importante que l'égalité. Il y a cette idée, voilà, l'égalité elle est déjà là, il n'est pas besoin de faire grand-chose pour les femmes. Ceux qui ont besoin de programmes pour leur intégration, mais ce sont plutôt les populations immigrées. Et donc c'est quelque chose qui va un peu miner la revendication féministe. Et là on voit qu'on n'est pas du tout dans une perspective intersectionnelle, évidemment, où on fait comme si les populations immigrées, ben, il n'y avait pas aussi des femmes dedans. Et puis parallèlement, hein, il y a cette croissance de l'extrême droite qui fait encore plus penser que la question, c'est cette intégration. Alors, si on regarde le cinquième programme européen 2015, hein, on voit qu'il semblerait y avoir des progrès. On dit qu'il faut qu'on ne soit plus dans une perspective de l'égalité des chances, c'est-à-dire simplement donner les mêmes droits aux femmes, les mêmes conditions, puis après que le meilleur gagne, mais qu'on va essayer de réfléchir à tous les obstacles, par exemple au niveau des enfants, au niveau des représentations, qui font qu'il est plus difficile pour les femmes de se réaliser professionnellement. L'autre grand point, c'est la volonté de combattre les violences envers les femmes. On verra que c'est un des rares grands acquis de la période. Et puis, aussi, on veut développer la prise en compte et l'évaluation d'impact de la dimension genre dans le processus budgétaire. Donc là, c'est quand même un aspect important du gender mainstreaming. Et puis l'autre point, mais l'autre point qui va un petit peu en contradiction avec ça, c'est qu'on va parler de la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale. Et si le terme lui-même est tout à fait juste, il est important pour les hommes et pour les femmes qu'il y ait une conciliation de la vie professionnelle et familiale. Très souvent, quand on parle de conciliation, ben, ce poids de la conciliation, il va reposer entièrement sur les femmes. Un autre discours très important aujourd'hui, c'est la question de l'intégration de la parité, non seulement au niveau politique, mais au niveau économique. Donc, en 2012, l'Union européenne se donne comme objectif qu'il y ait désormais 40% de femmes dans les comités de direction des entreprises publiques. Mais ce qui est intéressant dans cette décision, c'est la rhétorique qui l'accompagne. Donc on va dire que c'est juste, c'est pour l'égalité des sexes, mais on va surtout dire que c'est favorable à la compétitivité économique, que les femmes sont, que leur présence permet une augmentation du rendement des entreprises, une plus grande efficacité. Et là, on retombe assez vite sur des discours assez essentialisants sur les femmes qui sont plus favorables au dialogue, ce qu'ils savent mieux écouter, qui vont prendre moins de risques, qui vont savoir mieux gérer les ressources humaines. Et donc, ce discours peut cacher quand même avoir des romans qui sont pas tellement favorables à l'égalité des sexes. Donc là, vous avez aussi une des autres justifications hein, qui est aujourd'hui, il y a un vieillissement en Europe, qu'on va manquer de bras et que face à ces pénuries de main-d'œuvre, eh bien, il faut que les femmes soient plus actives sur le marché du travail. Et là, on vous dit, bah, seulement 59% des Européennes sont actives sur le marché du travail contre 70% des hommes. Il faudrait réussir à augmenter leur taux d'activité. Et puis d'autre part, un tiers d'entre elles travaillent à temps partiel contre 8% des hommes, et là aussi, ils voudraient augmenter leur taux d'activité. Donc il y a 34 pays cibles, hein, vous pouvez les voir ici, hein, qui sont visés par ce programme d'augmenter la participation des femmes dans les communautés. Et puis, ce discours utilitariste, hein, est beaucoup fondé sur la crainte du vieillissement, donc il est quand même assez étrange puisque on est passé finalement de cette idée qu'il y avait une égalité dans le marché, hein, qui était celle du début de la communauté du traité de Rome de 1957, hein, à une idée qu'il fallait l'égalité pour le marché et non pas une égalité fondée sur des motifs sur des motifs politiques, sur des motifs humanistes, mais sur une volonté d'améliorer le fonctionnement du marché. Et ça renvoie un petit peu, alors pour le coup, à ce dont je vous ai parlé au moment de la sur les smart economics, hein, sur l'idée, ben aujourd'hui, oui, il faut que les femmes soient prêtes à s'investir dans l'économie comme productrice et comme consommatrice, qui est un discours qui est très porté actuellement par les institutions internationales, y compris la Banque mondiale. Alors, quel est le résultat de tout ça? Quelles sont les institutions actuelles et comment les questions relatives à l'égalité sont-elles traitées au sein des conseils des ministres? C'est au sein du conseil en particulièrement emploi, politique sociale, santé, consommateurs et au sein des conseils européens. Il y a aussi une autre institution qui est de la communauté européenne qui est extrêmement importante pour l'égalité, c'est la Cour de justice. En effet, de nombreuses personnes, particulièrement les anglo-saxons, hein, qui sont très habitués à traiter toutes les questions de droit du travail par le recours à la justice, alors que les Français ont beaucoup moins cette pratique. Donc ils portent leurs plaintes, notamment au niveau de l'égalité, et du coup il y a une jurisprudence qui est très abondante et qui est très importante. En effet, cette jurisprudence définit un cadre juridique de discrimination directe et indirecte. Et ça, c'est très important, parce que la discrimination, elle est parfois effectivement directe, parfois on va vous dire que c'est en tant que femme qu'on ne veut pas de vous dans ce poste. Mais en même temps, le plus souvent, d'une part, les employeurs se gardent bien de justifier de cette façon leur décision, et puis surtout, ce sont d'autres facteurs qui vont intervenir, des réunions qui sont extrêmement tardives, par exemple. Et donc, la Cour de justice, elle va aussi aider les victimes en aménageant la charge de la preuve, et elle a traîné déjà plusieurs États en justice. Donc, il s'agit d'une institution qui joue un rôle important au niveau de l'égalité des sexes. Une autre institution qui est très importante, c'est le Fonds social européen, qui apporte un soutien financier aux actions destinées à réaliser les objectifs de la stratégie de Lisbonne pour l'emploi. Et dans ces objectifs, il y a le fait d'augmenter justement le taux d'activité des femmes, de limiter le recours au travail à temps partiel, d'améliorer leur employabilité, hein, et puis d'améliorer aussi leur formation et donc leur salaire. Vous trouverez d'ailleurs, hein, dans le module sur l'éducation, des exemples de recours, notamment par associations bretonnes à ce fonds social européen pour financer leurs activités. Donc là, ça, c'est une façon qui a été très importante de faire intervenir l'égalité. L'Union européenne, ce sont des institutions, mais ce sont aussi des bases juridiques qui sont diversifiées. Il y a des lois qui sont contraignantes. C'est le cas notamment des traités. Et en premier lieu, du traité de Rome, dont l'article 119 de 1957 pose le principe de l'égalité de rémunération. Ça, normalement, les entreprises doivent suivre ces principes. Et puis, il y a la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000 qui consacre le principe de l'égalité homme-femme dans tous les domaines. Et donc, là aussi, ce sont des principes qui sont contraignants et on peut les utiliser, notamment face à la Cour de justice européenne, pour dire ces principes ne sont pas respectés. Mais il y a aussi, et c'est ce qui s'est développé ces dernières années, et notamment en ce qui concerne l'égalité européenne, il y a ce qu'on appelle des soft laws, c'est-à-dire des lois douces. C'est-à-dire que ce sont des lois qui ne prévoient pas de contraintes. Donc, vous êtes incité à les respecter. Vous allez, par exemple, être cité en exemple, vous allez avoir un label, vous allez avoir des rétributions symboliques. Mais par contre, si vous ne les respectez pas, vous n'aurez pas de condamnation et personne ne pourra dire « mais cette directive doit s'appliquer » et donc cette personne ne peut pas aller en fait en cour de justice pour demander à ce qu'elle soit respectée. Alors, les directives qui s'appliquent, hein, ce sont 13 d'entre elles concernent la lutte contre les discriminations dans l'emploi, hein, ce qui est vraiment le cœur de l'action de l'Union européenne, donc dans l'emploi, la formation professionnelle, la protection sociale, puisque ces trois domaines sont très fortement liés. Et il y a eu, il y en a une sur l'égalité de traitement dans l'accès et la fourniture de biens et de services. Ça a été très difficile à obtenir cette directive, mais elle a finalement été obtenue. En revanche, il n'y a toujours pas de directive concernant l'éducation ou le logement. Et de toute façon, il n'y a pas de possibilité de recours juridique. Donc, ce n'est pas forcément très utile. Regardons la directive de 2002 sur l'égalité de traitement au travail. Cette directive interdit le harcèlement sexuel au travail. On sait que c'est une des raisons qui peuvent pousser des femmes soit à la dépression, à partir de leur emploi. C'est quelque chose qui a des effets dramatiques. Donc, une directive a été prise. Mais la question qui n'a toujours pas été résolue, c'est qu'est-ce que c'est qu'un comportement inapproprié ? D'un pays à l'autre, on va avoir des représentations extrêmement différentes. Par exemple, les pays du Nord acceptent souvent, du Nord de l'Europe, hein, acceptent la pornographie au travail. Vous considérez que diffuser des images ou des photos, des vidéos n'est pas quelque chose qui peut être considéré comme du harcèlement sexuel au travail. Par contre, il considère que toute façon de se toucher au travail est quelque chose d'absolument scandaleux. Les pays du Sud ont exactement la position inverse. Ils vont concevoir la pornographie comme une violence, alors qu'ils vont se faire la bise ou se taper dans le dos. Donc on voit la difficulté de définir face à des traditions nationales totalement différentes, hein, même quelque chose qui relève de l'objectif même de l'Union européenne. Alors les politiciens français aussi sont pas mal, puisqu'ils sont pour le maintien de la culture européenne de la séduction, dont on sait jusqu'où il peut aller selon eux. Autre grand thème de débat, le congé maternité. Le 20 octobre 2010, les eurodéputés ont voté avec une large majorité un allongement de ce congé de 14 semaines à 20 semaines intégralement payées. En réalité, il faudrait qu'une directive soit prise pour l'étendre, hein, et ce n'a pas été fait. Toujours pas. C'est-à-dire qu'il y a bien eu un vote, mais la directive n'a pas suivi. On sait que l'exemple est assez fréquent. Hein. En France, par exemple, il y a eu une loi en 1967 pour la contraception. Il a fallu attendre 5 ans pour que le décret soit d'application sorte. Donc il y a cette espèce de retard, de complexité. Et l'objectif, c'était de faire que toutes les Européennes aient les mêmes conditions à ce niveau-là. Alors, une convention qui a été plus efficace, hein, parce que c'est une des rares qui a été contraignante, c'est la convention depuis fort longtemps, hein, où on était passé à un régime de directive, c'est la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. C'est une convention qui a été signée à Istanbul le 7 avril 2011 et qui, elle, donne un cadre juridique complet pour prévenir les violences à l'encontre des femmes, protéger les victimes, mettre fin à l'impunité des auteurs de violences. Et donc, qui est aussi assez large pour inclure à la fois le mariage forcé, les mutilations génitales féminines, le harcèlement, les violences physiques et psychologiques, les violences sexuelles. Il faut quand même savoir que de nombreuses régions du monde, notamment l'Amérique latine, l'Afrique, avaient pris avant l'Europe ce type de convention. Donc là, l'Union européenne, supposée être en avance sur l'égalité entre les sexes, hein, a plutôt été en retard. Et il faut aussi rappeler que c'est depuis 1995 que les États sont supposés mener une lutte active contre les violences envers les femmes. Donc, quand même, un certain retard à ce niveau-là. Même si aujourd'hui, cette convention est utile puisqu'elle peut faire l'objet de plaintes sur l'ensemble de l'Union européenne, même pour les pays qui n'auraient pas eux-mêmes de politique de lutte contre les violences. Et il faut rappeler que même si la violence envers les femmes est peut-être moins fréquente que dans d'autres régions du monde, néanmoins, elle existe et on considère que 15% des femmes, c'est des résultats d'enquêtes statistiques au niveau de l'Union européenne, 15% des femmes âgées de plus de 16 ans en Europe ont subi des violences au sein de leur couple. Et donc, il y a des niveaux de violence assez différents d'un pays à l'autre. En ce qui concerne les mutilations génitales féminines, on considère qu'elles touchent jusqu'à 1,5 million de femmes vivant en Europe. Hein, et donc, il s'agit d'avoir une politique adaptée pour remplacer, par exemple, par de nouveaux rituels, cet acte. Des nouveaux rituels qui seraient moins violents que celui-ci. Alors, la question, évidemment, qu'on peut poser, c'est quelle est l'effectivité de ces politiques? Sylvia Walby, une Anglaise qui a beaucoup travaillé sur cette question, conclut un de ses ouvrages en disant qu'il y a eu le développement d'un discours légitimant sur l'égalité des droits. Or, pour réaliser des droits, il faut d'abord en avoir connaissance et penser aussi qu'on a droit à avoir des droits. Pendant très longtemps, hein, par exemple, eh bien, les femmes considéraient et les États considéraient que la violence était un phénomène inéluctable dans le couple. À partir du moment où on considère que non, les femmes ont droit à leur intégrité corporelle, hein, à leur sûreté, hein, à leur liberté, c'est-à-dire au moment où on applique finalement aux femmes aussi, y compris dans le couple, ce qui était quand même un article de la Charte des droits de l'homme de l'ONU de 1948, hein, eh bien évidemment, cela change tout. Par ailleurs, sur l'aspect, sur ce qui est l'essentiel du travail de l'Union européenne, c'est-à-dire des directives légales sur l'emploi. Alors, ces directives ont évidemment l'avantage d'exister, mais d'une part, on ne peut pas s'en saisir hein, pour protester contre un traitement discriminatoire hein, au niveau européen. Et puis, d'autre part, ces directives sur l'emploi concernent uniquement l'emploi formel hein, et ne prend pas du tout en considération hein, tout ce qui relève du care, c'est-à-dire du soin aux enfants, aux adultes dépendants, aux personnes âgées, même le soin du conjoint, etc. Donc, on prend finalement l'emploi masculin comme la norme. Alors que souvent, ce qui le rend possible derrière, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du travailleur masculin, qui lui fait à manger, qui repasse sa chemise, etc. Et du coup, la politique de conciliation, dans la mesure où elle ne vise finalement que les femmes, elle tend à renforcer ce modèle et à essayer d'instaurer un régime de ce qu'on a appelé un pourvoyeur et demi, c'est-à-dire que dans le régime des années 50, 60, celui qu'on voit dans une série comme Mad Max, voilà, l'idée c'est que l'homme est au travail, que la femme, l'épouse et la mère est au foyer, et puis il y a une division sexuelle du travail très claire. Aujourd'hui, dans certains pays comme les pays suédois ou en Finlande, il y a cette idée d'une. De deux pourvoyeurs qui ont des revenus importants, mais dans beaucoup de pays européens, on est plutôt dans un modèle de un pourvoyeur et demi, c'est-à-dire un homme qui travaille à plein temps et une femme qui travaille à mi-temps ou avec des salaires très faibles. Et la politique de l'emploi, finalement, de l'Union européenne ne permet pas de remettre en question ce modèle et on peut au contraire penser qu'elle le promeut, qu'elle promeut un modèle de un pourvoyeur et demi. Ce qui ne permet pas une totale autonomisation des femmes, évidemment, qui rend difficile le divorce, qui a un impact important sur la division du travail. En ce qui concerne le gender mainstreaming, il implique qu'il y ait au sommet de l'État, au moins deux fois par an, des exercices où on fasse le point effectivement sur l'évolution de l'égalité entre les sexes. C'est réalisé, d'après Sylvia Walby, dans certains programmes de l'Union européenne et dans certains pays. Par exemple, en Suède et en Allemagne, les élites reçoivent régulièrement une formation sur le genre. C'est moins le cas dans d'autres pays. Et malheureusement, la France, une fois de plus, est un peu à la traîne sur cette question. On verra qu'il a fallu attendre le gouvernement Hollande pour qu'il y ait eu le premier exercice de ce type en France. Donc, beaucoup plus tardivement que ce qui était prévu. Et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus par la suite, d'ailleurs. En Belgique, il y a des rapports annuels sur les progrès réalisés, mais en général, il y a quand même moins de réalisations. Alors, au niveau du gender mainstreaming, il faudrait aussi que ces États relancent leurs efforts en faveur de l'égalité en obtenant des ressources pour différentes recherches hein, qui ne sont pas encore réalisées. Un autre aspect du gender mainstreaming, non seulement donc à la tête de l'État, mais aussi pour l'ensemble des fonctionnaires, hein, c'est qu'un certain nombre d'entre eux se sont rencontrés pour échanger sur les outils et les instruments, mesurer les progrès, sensibiliser aux questions de genre, élaborer une politique efficace et des outils de référence. Donc il y a eu une circulation européenne des élites sur ce sujet. Et ça, c'est effectivement une façon de se connaître, de connaître les bonnes pratiques, donc d'avancer sur cette question. Alors, si on regarde quels sont les facteurs favorables à une mise en œuvre d'une gender mainstreaming, c'est ce qu'a fait notamment Sophie Jacquot. Hein. Il faut qu'il y ait une volonté politique de la part des supérieurs hein, et un un engagement en faveur du genre. C'est une condition minimale. Il faut aussi qu'on se rende compte que, évidemment, on ne peut pas attendre autant chaque État. En fonction des traditions nationales, des régimes de genre locaux, eh bien, il va y avoir des progrès à partir d'une base plus ou moins avancée. Si on évalue toutes les avancées en matière d'égalité en prenant comme exemple la Suède, évidemment, on a l'impression qu'aucun pays n'évolue. Au contraire, si on prend comme point de départ l'Italie, d'autres, on ne verra pas les progrès qui continuent à être réalisés dans d'autres pays. Donc, prendre le point d'arrivée, le point de départ exactement comme juge du point d'arrivée. Un autre aspect, c'est qu'il est très important qu'il y ait eu une formation et que les élites aient une expertise en matière de genre. Sinon, ils ne seront pas capables de comprendre quels sont les véritables enjeux. Et puis, le dernier point, et peut-être le plus important, c'est qu'il faut quand même fournir des ressources significatives en argent et en personnel. Donc, si tout cela est réalisé, on peut penser que le gender mainstreaming pourrait être efficace. Sauf qu'il y a quand même des difficultés qui lui sont propres. D'une part, ce qui est fondamental dans le gender mainstreaming, c'est qu'il fonctionne sur la base de soft laws. Il fonctionne sur la base de directives, d'encouragement. C'est une politique incitative. Et du coup, ça diminue les possibilités d'activisme judiciaire. Donc, il est plus difficile, finalement, de réaliser le gender mainstreaming à cause de cette caractéristique très importante. Le deuxième point, c'est qu'il fragilise ce que Jane Woodward a appelé le triangle de velours, c'est-à-dire les fémocrates, hein, ces femmes qui travaillent dans l'administration et qui ont soit des engagements féministes depuis longtemps, soit qui se sont formées à cette question, des militantes féministes, des universitaires, et c'est souvent la rencontre entre ces trois actrices, ces trois types d'actrices, qui ont permis des changements significatifs. Or, avec le gender mainstreaming, c'est finalement des personnels, soit peu intéressés, soit peu formés, qui vont souvent devoir réaliser des actions en faveur de l'égalité entre les sexes. Et là, du coup, c'est un facteur de fragilisation, de difficulté. En effet, faire du gender mainstreaming requiert un personnel formé et des ressources appropriées. Il ne suffit pas de dire tous les ministères vont se préoccuper de l'égalité de genre, il faut encore qu'il y ait des gens à l'intérieur de ces ministères qui soient capables de le faire. Alors, si on regarde les personnels, tout à l'heure, j'évoquais l'Allemagne qui réussissait mieux que la France. Eh bien, en Allemagne, il y a 176 chargés de mission à l'égalité à plein temps. Ce qui est quand même un nombre très important. En France, il n'y en a que 22 et qui ont souvent aussi d'autres tâches. Donc, ça fait quand même un différentiel très important. Même si même les chargés de mission allemandes se plaignent de ne pas être toujours conviées au groupe de travail, et donc elles sont supposées être référentes genre dans un ministère, mais elles ne sont pas toujours conviées au moment où se discutent des décisions importantes. Alors les personnels, il faut avoir des personnels, il faut qu'ils soient formés. En réalité, ces formations, aujourd'hui, sont largement reconnues. On sait quand même qu'il faut former des personnels. Et ça a reconnu ça a atteint une certaine légitimité, comme l'a montré Sophie Jacot. Néanmoins, les formations restent peu nombreuses par rapport à l'importance du personnel administratif, hein, peu suivies. Les gens ont toujours d'autres choses à faire si leur direction ne leur dit pas que c'est obligatoire et ne vont pas y aller. Et puis, peu assimiler. Il ne suffit pas de suivre une formation, mais il faut encore la comprendre, vouloir la comprendre, voire s'en servir. Donc le bilan global qui a été fait de ces formations n'est pas très positif, mais encore faut-il qu'on fasse un bilan, hein, c'est trop rarement le cas. On va prendre un autre exemple, c'est la mise en œuvre du Fonds social européen en Ile-de-France et à Berlin. C'est Gwendoline Perrier qui a fait sa thèse sur ce sujet et qui a comparé la mise en œuvre donc, du Fonds social européen dont on a déjà parlé dans ces deux capitales. Et sa conclusion, c'est que l'opérationnalisation d'une gender mainstreaming de façon non contraignante n'a pas permis d'inclure de façon substantielle et systématique les questions de genre dans la gestion du Fonds social européen. Donc, malgré les petites lignes qui sont supposées être remplies maintenant par toutes les personnes qui demandent des fonds au Fonds social européen, eh bien, le résultat est plutôt négatif. Alors, pourquoi Gwendoline Perrier teste finalement trois explications qui sont souvent données. La première, c'est que de toute façon, il n'y a rien à espérer de bon, puisque les chefs sont toujours des hommes, donc ils ne vont pas être en faveur de l'égalité de sexe et ils vont plus ou moins saboter ces formations. Gwendoline Perrier considère que ce n'est pas toujours le cas, que ça va être plus en lien avec les ressources et les intérêts des groupes d'acteurs. Que finalement, un chef de service qui voit là l'occasion de mobiliser ses troupes va pouvoir développer une approche plus féministe, que c'est donc pas uniquement le sexe qui intervient, le sexe de la hiérarchie, mais que c'est plus lié à des questions de volonté d'acteur, enfin, par rapport à des intérêts. Et puis le troisième point, c'est qu'il ne peut y avoir de changement réel, c'est que s'il y a un changement dans la culture des organisations. Et donc, même si finalement un chef veut mettre en œuvre cette politique, la structure même de l'organisation peut faire que ça ne pourra pas marcher. Donc il faut avoir une optique finalement plus fine que celle qui était énoncée précédemment. On peut dire, juste pour faire un petit bilan, hein, que à ce stade de la leçon, avant de passer aux situations des différents pays en Europe, je veux dire que l'Union européenne a quand même été un levier pour faire évoluer des politiques nationales, parce qu'elle a fourni des bases juridiques, qu'elle a défini des méthodes de travail collectives, qu'elle a mis à disposition des outils d'intervention. Et on peut déjà conclure quand même que les politiques contraignantes ont été plus efficaces que le gender mainstreaming. Et donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez lire les ouvrages de Rich, de Lombardo ou de Forrest. Alors maintenant, on va voir un petit peu la question des contextualisations nationales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce qui est important dans l'Union européenne, c'est le principe de subsidiarité. On considère que l'étape locale qui doit faire le plus de choses possibles, et puis dès qu'elle ne peut pas en faire plus, on va passer à l'étape suivante. Et donc, il y a beaucoup de politiques hein, qui ne relèvent pas, qui concernent pourtant l'égalité entre les sexes, et qui ne concernent pas l'Union européenne, qui restent des prérogatives nationales. Et là, on se heurte aux représentations concurrentes des différents États. Le cas le plus emblématique, c'est évidemment celui de la prostitution. En Suède, on considère que c'est un crime. Aux Pays-Bas, un travail. On voit bien que dans ces conditions, il n'y a pas de possibilité de politique commune à l'Europe sur cette question. Si on regarde le type de politique d'égalité, ça c'est sur un tiré d'un projet européen qui s'appelle le Scoop Project, hein. Vous voyez que en fait, les politiques d'égalité des pays sont de trois types. Elles peuvent viser la transformation des rapports sociaux. C'est le cas en Finlande et en Suède. Elles peuvent viser finalement à une meilleure inclusion des femmes, donc on va essayer d'en donner un peu tenter d'améliorer leur situation, mais sans vouloir transformer du tout les structures d'inégalité. Et ça, malheureusement, la France, le Royaume-Uni sont plutôt dans ce cas. Et puis, il peut y avoir des mixtes de ces deux positions. Par exemple, en Suède, au Portugal, ou en Allemagne, ou encore en Italie. Donc là, on est déjà dans une, on voit que c'est que la politique d'égalité mise en œuvre en Europe n'a pas suffi à homogénéiser les politiques d'égalité. Si on va voir d'autres points, ben vous savez, hein, pour l'avortement, c'est vraiment le grand écart entre les pays qui l'interdisent totalement, comme l'Irlande, ou des pays qui l'acceptent à la demande, dont la France, l'Allemagne et la plupart des pays anciennement républiques socialistes devenus des pays européens. Alors ça, c'est bien connu. Ce qui est moins connu, c'est que par exemple, par rapport à la contraception, il y a aussi une très grande diversité. Tous les pays acceptent la contraception, mais il y en a seulement un tiers qui considère que c'est une question d'égalité entre les sexes et qui vont le soutenir, ou de santé publique, ça dépend, et qui vont le soutenir directement. Il y a 41% des pays qui, eux, considèrent que c'est important, mais que finalement c'est soit une question privée, soit que ça peut entrer en contradiction avec les objectifs de croissance démographique. Donc le soutien reste indirect, il passe, on va par exemple accepter que la contraception soit financée par la sécurité sociale, que soit remboursée, ou que des associations la fournissent, mais on ne va pas faire de politique directe en faveur de la contraception. Et puis il y a quand même 26 pays des pays européens qui ne soutiennent pas l'accès à la contraception, et cela majoritairement pour des raisons démographiques, en considérant que leur taille est en train, que leur croissance démographique est nulle ou négative, et qu'il ne faut surtout pas aggraver cette tendance. On sait que par exemple en Suède, à la fin des années 30, face à cette problématique démographique, au contraire, le choix avait été fait de soutenir l'accès à la contraception et en même temps de donner les moyens aux familles de mieux élever leurs enfants, en pensant que le fait que les enfants soient désirés était quelque chose de très important pour eux et que par ailleurs c'est un point essentiel pour l'égalité entre les sexes. L'acceptation ou pas de l'homosexualité est aussi une question extrêmement diverse, hein, qui produit des politiques soit homophobes, soit acceptant l'homosexualité et pénalisant l'homophobie. Alors face à cette situation, Gisèle Halimi, qui est une grande avocate, hein, connue depuis longtemps pour son action en faveur des femmes, et qui a créé une association qui s'appelle Choisir, hein, a écrit un livre en essayant de proposer que finalement il y ait une homogénéisation des politiques européennes en matière d'égalité entre les sexes, qu'on arrête la subsidiarité et qu'on choisisse à chaque fois la clause de la nation qui est la plus favorable aux femmes. Et donc, tous les pays auraient du coup leur pierre à apporter à une politique commune d'égalité entre les sexes, une politique qui tiendrait compte aussi bien des droits civils, politiques, économiques et sociaux, et reproductifs et sexuels. Alors, vous pouvez regarder la diapositive, hein, je vais peut-être pas tout lire, mais donc elle proposait que ce soit le Danemark qui soit suivi pour l'éducation sexuelle, les Pays-Bas pour l'accès et la formation à la contraception, la Suède à la fois pour l'avortement et pour la pénalisation du client de la prostituée, l'Autriche, hein, contrairement à une image qu'on peut avoir par rapport au mariage des homosexuels, ou l'Espagne pour le divorce et la lutte contre les femmes. Et donc cela continue. Et nous, notre spécificité, ce que l'on pourrait apporter à l'Europe, eh bien, c'est le droit du travail. Comme on l'a vu, hein, déjà au moment de la construction de l'Europe, c'est la France qui avait insisté pour que l'égalité de rémunération soit incluse entre les hommes et les femmes, soit incluse dans le traité de Rome. Alors c'est un peu curieux parce qu'on sait qu'on est quand même loin de la réalisation de cet objectif. Néanmoins, effectivement, au niveau proprement juridique, c'est la France qui serait la plus avancée. Alors, si on quitte la sphère des politiques, on se demande quelle est la situation des Européennes, on peut dire qu'il y a eu partout une augmentation des taux d'emploi et de la réussite scolaire et universitaire. Donc, à ce niveau-là, il y a vraiment eu une très forte amélioration, mais qu'il reste toujours des discriminations qui sont fondées sur plusieurs facteurs. Il y a une ségrégation sectorielle, c'est-à-dire que les femmes ne travaillent pas dans les mêmes secteurs que les hommes. Les hommes vont être plus souvent dans le primaire, donc dans l'agriculture, la pêche, l'industrie, le bâtiment, et les femmes vont être plutôt dans tout ce qui relève du service social et sanitaire, l'éducation. Mais c'est aussi une ségrégation qui est occupationnelle au niveau de l'ensemble de l'Europe. Les femmes ne représentent que 33% des femmes dirigeantes et entrepreneurs. Évidemment, elles sont plus souvent dirigeantes de petites entreprises que de grandes entreprises. D'autre part, leurs salaires sont plus faibles. Et puis enfin, elles représentent 76% du travail à temps partiel. Et puis, même s'il y a une augmentation des taux d'emploi, eh bien, les mères de jeunes enfants sont seulement 62% à occuper un emploi contre 9% des pères. Donc on voit que la question de la conciliation de la vie de famille et de travail se pose très différemment pour les femmes et pour les hommes. Et ça, dans l'ensemble de l'Europe. Et du coup, cette préoccupation, elle est partagée par l'ensemble des Européens. Il y a eu une grande enquête en 2009 auprès de 26 470 Européens sur leur perception de l'égalité de genre. Eh bien, on arrive à des résultats évidemment très différents, mais quand même un sentiment qu'elle n'est pas encore obtenue partout. Ainsi, les trois quarts des Français, des Espagnols, des Italiens, des Autrichiens, des Suédois considèrent qu'elle est très répandue. Alors, qu'ils ne sont que la moitié en Allemagne, et que moins que près de 28% considèrent que cette égalité est rarement étendue. C'est le cas, par exemple, de la Lettonie et de la Bulgarie. Vous avez donc ici la carte de ces différentes perceptions d'égalité, et donc on voit qu'il semblerait que la situation soit très différente hein, d'un pays à l'autre, passant d'un maximum de 77% à un minimum de 28%. Alors du coup, on a demandé aux Européens quelles sont les actions qu'ils considéraient majoritaires. Les deux tiers d'entre eux considèrent que la première action à mener, c'est sur les violences contre les femmes. Et donc ça recoupe effectivement un des axes prioritaires de l'Union européenne. Ils sont 50% à considérer qu'il faut améliorer le salaire des femmes et diminuer l'écart de salaire entre les hommes et les femmes. Et ça fait donc aussi partie, là, du coup, depuis le début de la politique européenne. Près de 42% d'entre eux considèrent qu'il faut lutter contre les discriminations envers les femmes dans les pays en développement. Et il y a une action effectivement de l'Union européenne au niveau de la politique d'aide au développement sur ce thème. Ils ne sont en revanche que 20% à considérer que les inégalités de tâches domestiques doivent être une priorité de l'Union. Donc, nous avons vu que les organisations internationales, et l'ONU en particulier, et l'Union européenne, n'ont pas eu les mêmes préoccupations au tout début. Donc, ils sont partis d'assez loin, hein, avec l'ONU se préoccupant du mariage, de la nationalité des femmes, de leurs droits propres, alors que l'Union européenne se concentrait sur la question du droit du travail nécessaire pour une juste circulation des travailleurs. Puis nous avons vu que ce sont à peu près à la même époque, hein, avec le développement du mouvement de libération des femmes qui peut-être mobilisé peu de personnes, mais qui a eu un impact très important, aussi parce qu'il était évidemment en phase, en lien avec des transformations du monde du travail et de l'éducation. Ce qui fait qu'il y a eu finalement une certaine proximité au niveau des évolutions. C'est à la même période, hein, 1975-95 pour l'ONU, 1979, 2000, 2004 pour l'Union européenne, qu'il y a eu une grande effervescence et de nombreuses politiques ou de nombreux instruments juridiques qui ont été mis en place en faveur des droits des femmes et de l'égalité effective. Néanmoins, par la suite, il y a eu aussi un backlash, et pour des raisons en partie différentes, liées à des évolutions, pas pour le coup semblables, plutôt de régression des droits des femmes, de prise de pouvoir par des mouvements plutôt de droite. Ce que l'on peut remarquer ensuite, si on regarde l'effectivité, c'est qu'il y a eu aussi la mise en place des mêmes instruments juridiques au même moment, c'est-à-dire avec un petit décalage en faveur de l'Union, enfin au détriment de l'Union européenne, notamment le gender mainstreaming, hein, qui s'est appliqué, qui est la norme des programmes internationaux, mais aussi des programmes de l'Union européenne. Alors ce gender mainstreaming, on a vu qu'il avait des aspects positifs évidemment, mais que sur le fond c'était plutôt une idée juste, mais une pratique fausse, puisqu'il tend à diluer finalement l'intérêt pour l'égalité entre les sexes et surtout à lui donner moins de moyens et à fragiliser certains de ses acquis. Néanmoins, ce qui joue très fortement, c'est aussi les traditions nationales, hein, qui vont expliquer que certains pays s'emparent des instruments en faveur de l'égalité des sexes, et alors que d'autres vont les détourner ou se les approprier de façon assez modeste et parfois assez contradictoire. Et donc tout cela, nous allons le voir plus en détail dans la prochaine partie qui porte sur la France.